bouleverser le Québec. À la Polytechnique de Montréal, combien de personnes sont décédées? 14. Est-ce exact? 14 femmes et un garçon. Celui qui a tué les 14 femmes. Il y a eu 15 décès. En fait, Marc Lépine est aussi décédé le 14 décembre parce qu'il s'est enlevé la vie. Et au moins 14 familles ont été victimes, mais aussi la famille de Marc Lépine a été victime. Et c'est ce que un peu Mme Monique Lépine essaie aussi de communiquer, que non seulement les 14 familles de ces femmes qui ont été tuées dans des circonstances tragiques qui n'auraient pas dû arriver, mais il y a eu d'autres familles qui ont été impactées, et même après ça. Et vous allez voir un peu dans son témoignage. Il y a à peu près 2 ans, Mme Lépine m'a contacté disant qu'elle allait écrire un deuxième livre que j'ai maintenant entre mes mains qui s'appelle « Renaître ». Alors, c'est un projet à ce moment-là. Et Mme Lépine est venue ici en 2010, et c'est là que j'ai appris à la connaître un peu plus, et on a interagi ensemble à travers les années suite à ça. Mais en 2010, ici, on avait une conférence qui était sur comment guérir les cœurs blessés et comment Jésus peut guérir les cœurs blessés. Et Mme Lépine, naturellement, ça l'a interpellée. Elle est venue ici et on a été en contact avec elle. Elle a suivi la formation avec M. Regier au Colorado. Et elle a suivi aussi une formation avec moi qui allait un peu dans ce même thème-là. Et j'enseignais un cours sur un outil qu'on utilise justement dans cette perspective-là de comment Dieu veut rencontrer ceux qui ont le cœur blessé. Et à travers ce cours-là, bien, il y avait du matériel que j'avais naturellement, dont un petit livret que j'avais écrit sur la colère, comment Dieu veut venir nous rencontrer lorsqu'on vit de la colère dans nos vies. Et là, elle me demandait la permission d'utiliser un extrait de ce petit livret que j'avais écrit pour le mettre dans son livre. Et avec plaisir, naturellement, j'ai dit oui. C'était même un honneur pour moi de voir qu'elle avait été interpellée par ce petit livret sur la colère. Et j'en ai profité pour dire, mais accepterais-tu, Monique, de venir à Trois-Rivières dans le cadre de ton lancement de livre, venir aussi nous parler un peu de comment Dieu a continué à intervenir dans ta vie à travers ces années et comment Dieu a fait la différence, justement. Elle a dit, bien sûr que j'accepte. Alors, c'est avec joie que je l'ai présentée au Conseil des pasteurs et on était tous d'accord à ce qu'elle puisse venir. Et vous savez, cette semaine, jeudi, elle était ici dans la région parce qu'on a essayé de faire profiter aussi à d'autres son témoignage. Donc, elle était à l'académie High School là, à Trois-Rivières. Ensuite, elle est allée aussi à l'université et elle est allée au cégep dans la même journée, 81 ans quand même, 3 conférences dans la même journée. Alors, on a eu le plaisir de la recevoir à la maison et elle a pu faire même un genre de petit repos et on a pris soin d'elle pour qu'elle soit redynamisée pour la soirée parce qu'elle avait une autre conférence. Alors, j'aimerais ça, vous juste, avant de l'inviter à venir, vous lire justement un petit extrait. Moi et mon épouse, hier, on a lu un peu plus que la moitié du livre et on s'est vraiment régalé à le lire, mais il y a un petit extrait que j'aimerais ça vous lire qui va, je pense, bien introduire ce qu'elle va venir vous présenter. Et en passant, le livre va être disponible à 25 $ après la conférence dans le hall d'entrée. Mme Lépine aussi va être disponible pour parler avec vous si vous êtes intéressé à lui parler. Alors, voici un extrait. Un proverbe que j'ai écrit trop petit pour mes yeux. Voici un proverbe que Mme Lépine cite. Proverbe 20-30. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. L'interprétation que j'en ai faite s'inspirait de ma profession, qui est infirmière. Quand une personne a un abcès, cela lui fait terriblement mal. Le chirurgien doit percer l'abcès avec son bistouri pour laisser écouler le pus. Ensuite, il nettoie la plaie et la cicatrisation se fait. Cela prend du temps. La cicatrice demeure. mais l'abcès ne fait plus mal. Tout mon être souffrait suite au décès tragique de mon fils et, un peu plus tard, de sa fille. Il a fallu vider mon âme de toute cette amertume, de cette culpabilité, de cette honte, de cette colère, de cette peur et de cette tristesse dont mon âme était envahie. Ce processus a duré 17 ans. Vous allez comprendre pourquoi 17 ans, parce que ça fait 30 ans la tragédie, mais ce processus-là a duré 17 ans parce que la douleur était vive et extrême. J'étais finalement prête à sortir de l'ombre, comme on sort de l'hôpital pour affronter la vie quotidienne, et à m'adapter à cette vie avec ce handicap qu'est la perte de mes deux enfants. J'ai dû réapprendre à vivre et à meubler ma solitude. Le divin chirurgien, Jésus, m'a accompagné durant tout mon processus de guérison. Et là, il cite un auteur qui s'appelle Catherine Kuhlman. La seule limite au pouvoir de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes. Alors, accueillons chaleureusement Mme Monique Lépine.
J'ai dit, c'est vrai que c'est petit, les livres. J'attends les opérations de cataracte et puis là, mes yeux sont un petit peu plus faibles. Je vais commencer par un petit verset avant de partir. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On voit ça dans Romains 12, 2. Et je pense, après ces 30 ans-là de réflexion, que Dieu m'a choisi parce que j'étais une anticonformiste. Je n'ai jamais rien fait comme les autres. Je vais commencer par vous donner un bref aperçu de peut-être qui je suis dans ma personnalité, mes expériences, pour ensuite entrer dans ce chemin de guérison que je viens de terminer et avec la grâce du Seigneur et qui, j'espère, vous aideront vous-même à trouver des solutions pour guérir vos blessures. Déjà à l'âge de 12 ans, mes frères sont revenus de la Deuxième Guerre. On était 10 chez nous, moi j'étais la 9e, donc j'avais des frères assez âgés. Et ils revenaient de la Deuxième Guerre et blessés. Et je me rappelle qu'ils avaient mis leur parachute dans le salon chez moi. Et j'étais vraiment impressionnée. J'avais peut-être 7 ans à cet âge-là, à ce moment-là. Et puis déjà, dans mon cœur, j'avais le désir de devenir une infirmière. Déjà, le Seigneur m'avait donné tout ce qu'il fallait pour aller aider les gens et guérir dans la mesure du possible. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais changé d'idée. Je suis une personne très déterminée et puis j'ai fait ce parcours d'infirmière. Je me rappelle aussi à l'âge de 12 ans que je voulais étudier. Les femmes, à cette époque-là, n'allaient pas toutes à faire de grandes études, mais je voulais étudier. C'était un désir que j'avais et que Dieu avait placé dans mon cœur. Mais à cette époque-là, dans les années, début des années 50, vous savez que le téléviseur est entré dans nos maisons. Et puis ce téléviseur faisait beaucoup de bruit et attirait beaucoup de monde. Alors on ne pouvait pas étudier. Puis moi, j'ai pleuré pour être pensionnaire. C'est inhabituel, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai été pensionnaire pendant 4 ans. Par la suite, bien, j'ai fait mon cours d'infirmière parce que c'était ça que j'avais décidé. Et quand tu étais studieuse, que tu étais une femme qui aimait l'étude, qui avait quand même un bon comportement malgré tout, les religieuses venaient vers toi pour te dire que tu avais la vocation. C'était comme ça dans les années 50. Voyez-vous, ça prenait un prêtre ou une religieuse dans toutes les familles. Chez nous, il n'y en avait pas. Alors, j'étais allée dans une retraite, on appelait ça des retraites fermées, c'est-à-dire un temps mis à part pour rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, j'avais comme eu cette... parce qu'il me l'avait suggéré, le prêtre, là, d'entrer en religion. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde était abasourdi. Personne ne comprenait que moi, je rentrais en religion. Mais je suis entrée en religion. Je cherchais Dieu. Je voulais donner ma vie à Dieu. Mais malheureusement, 3 ans après, je n'avais pas encore trouvé Dieu. La religion, ce n'est pas là qu'on trouve Dieu. On trouve Dieu dans une relation, c'est-à-dire quand on lui donne tout notre être et qu'on veut avoir sa vision des choses pour notre vie. Alors, c'est là où j'ai décidé de sortir de religion. Mais vous savez, on était rendu aux années 60, là, et puis la Révolution tranquille est arrivée au Québec. Hein? Et la Révolution tranquille séparait l'Église de l'État. Et malheureusement, on a rejeté Dieu à ce moment-là et on a fait entrer la sexualité qui est devenue le Dieu de ce siècle. Alors, moi, j'ai suivi la foule parce que je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Je me disais, ben, Dieu, il n'est pas là. Fait que j'ai rentré dans cette galère-là. Et puis, la seule chose que j'ai à l'intérieur de moi de ces années-là, c'est le grand vide que j'avais à l'intérieur de moi. Un grand vide. Pourquoi? Parce que j'avais quand même approché Dieu, ses principes, mais j'avais tout rejeté. Et ce grand vide-là m'a fait faire des choix qui n'étaient pas bons. Des fois, je dis en farce, je me suis mariée, tu sais. Mais c'est pas que le mariage, c'est pas correct. Le mariage, c'est bon, mais il faut choisir la bonne personne, celle que le Seigneur a pour toi, celle qui va être compatible avec toi. En sortant de religion, j'ai trouvé un musulman qui n'était pas pratiquant, mais qui avait un cerveau, qui était intelligent. Tu sais, je cherchais ça, moi, probablement. Et puis là, ben, ça n'a pas marché. Évidemment, ça n'a pas marché. Ce que j'ai découvert dans les années qui ont suivi, c'était la violence conjugale. Beaucoup de violences conjugales et 2 enfants qui sont nés dans les années 60. Quand j'ai décidé en 71 de quitter ce mari, il a décidé de nous mettre dans la rue. Ça a été sa réaction. Puis on va en parler tantôt, de nos réactions dans l'émotion. Alors lui était probablement en colère et a décidé de nous mettre dans la rue. On a saisi tous nos biens, on a mis des scellés sur la porte et je me suis retrouvée avec mes 2 enfants, un dans chaque main et mon diplôme d'infirmière. J'avais tout perdu. Bon, mes enfants avaient 3 ans, 5 ans. Il faut comprendre que qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans, 5 ans peut comprendre quand du jour au lendemain, le père n'est plus dans le portrait. On laisse la maison, la belle maison, pour aller dans un petit appartement minable. On arrive avec la mère qui doit aller travailler pour assurer une survie parce qu'on n'avait aucune pension alimentaire. Et le père qui n'est jamais revenu voir ses enfants. Alors ça, mes amis, ça s'appelle du rejet, de l'abandon. Ça s'appelle une incapacité parfois de sentir l'amour. Des choses comme ça, de la trahison aussi, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Mais si tu ne règles pas ces problèmes émotionnels de l'enfance, tu vas les traîner toute ta vie. Parce que vous savez, j'ai découvert avec le temps que pour guérir émotionnellement, il faut que tu la regardes en face, ta souffrance. Alors, ce qui est arrivé, c'est que à l'âge de 25 ans, mon fils, sans préavis, entre à l'école polytechnique, tue 14 jeunes filles et s'enlève la vie. Je n'avais jamais soupçonné qu'il était capable de faire un tel geste. Les parents, on n'élève pas nos enfants pour en faire des tueurs. Hein? On leur donne le meilleur qu'on a, mais quand ils arrivent à l'âge adulte, ils doivent prendre leur choix. Et c'est eux qui vont rendre... Quand ils vont passer en jugement, c'est leur décision qui va peser dans la balance. Jésus ne va pas me demander à ma mort ce que j'ai fait de mes enfants. J'ai donné ce que j'avais à faire le temps qu'ils étaient adultes. Mais en tant qu'adultes, chacun, on est responsable de nos actes. Alors, mon fils, moi, m'a mis comme ça. Déjà, ce vide que j'avais à l'intérieur de moi était tellement profond que je criais à Dieu quand j'avais des malheurs. Mais je n'avais pas donné ma vie à Dieu encore. Mais je l'ai fait en 1981. En 1981, je suis revenue et j'ai vraiment connu qui était Jésus. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous a réconciliés avec le Père. Mais il veut qu'on donne notre cœur, qu'on lui donne notre cœur. Et après, lui fait le travail en nous de transformation. Donc, depuis 81 jusqu'à 1989, j'étais vraiment assidue à mon église. Et j'allais à toutes les réunions et je faisais tout ce que je comprenais. J'ai eu un amour, c'est la parole de Dieu. Et je l'ai encore. J'ai encore cette soif de connaître et je m'aperçois qu'on ne connaît rien, vraiment. Plus on avance, plus on lit, puis plus on ne connaît rien. C'est pas drôle, hein? C'est même essoufflant parfois. Mais en 89, quand j'ai su que mon fils était... Je ne l'ai pas su tout de suite. Le premier soir du 6, là, je m'en allais à ma réunion de prière. J'ai ouvert le téléviseur et j'ai vu qu'on avait un drame à la Polytechnique, mais je ne savais pas encore que c'était moi. Et là, je suis arrivée à la réunion de prière, demander la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Je vois dans ça la grâce de Jésus. Il est venu donner sa grâce parce qu'il savait que j'allais avoir besoin de beaucoup de courage le lendemain pour apprendre cette triste nouvelle. Et le lendemain soir, le lendemain, j'ai fait ma deuxième journée de formation et là, j'entendais les commentaires des infirmières autour de moi. C'était pas tellement drôle, vous savez ce qu'ils disaient? La majorité des jugements qu'on portait, c'était contre la mère. La mère qui devait être une sans-dessin, la mère, elle devait certainement être une BS, voyons donc, pas d'éducation. C'est ça, la perception des gens. Quand arrivent des malheurs de ce genre-là. Mais il se trouve que je répondais à aucun de ces critères-là. Alors là, les gens étaient un peu surpris. Mais c'est pas tout de suite parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas parler. Jésus m'a montré une image de Jésus, de Marie qui tenait Jésus mort dans ses bras. Ça s'appelle la Pietà de Michel-Ange. Et à ce moment-là, il me rappelait les paroles que Marie avait reçues dans Luc 2 quand on lui annonçait, Siméon et Anne, on lui annonçait, on prophétisait qu'un glaive transpercerait son cœur. Et j'ai compris, moi, que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et que moi, je devais garder tout ce que je ressentais à ce moment-là. Parce que quand tu es sur le coup de l'émotion, ce n'est pas le temps de parler. Je vais passer un peu quelques étapes du deuil. Je voudrais faire différemment parce que quand ça fait 4 fois que tu parles dans la même place, là, on va essayer de faire ça autrement. Le deuil. Quand tu apprends une nouvelle, un enfant, n'importe quelle nouvelle, un diagnostic, une perte d'emploi, n'importe quelle situation dans la vie, tout de suite, parfois, on est dans un état de choc, surtout quand c'est la perte d'être cher. Puis quand tu es en état de choc, le Seigneur a bien fait des choses. Notre corps doit se protéger. Alors, on a dans notre cerveau une hormone tranquillisante qui fait qu'on est présent, mais on a comme une paralysie de l'émotivité, paralysie de la concentration. Et ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions dans nos vies, pas dans ces périodes-là. Il y a parfois des gens qui disent, mais mon Dieu, qu'elle est sans cœur, elle pleure même pas la perte de son mari ou la perte de son enfant. C'est à cause de cette situation de paralysie émotionnelle qu'on peut faire continuer à vivre, mais parce qu'on a des choix à faire. Là. Il faut faire la funéraille, il faut faire le choix des cercueils ou de l'incinération et tout. Alors, moi, j'ai été quand même bénie encore. Puis là, on voit, regardez la main du Seigneur, comment il est. Hein. Mon pasteur, à l'époque, était criminologue. Donc, il connaissait le milieu. Puis c'est lui qui m'a aidé à aller chercher toutes ces choses-là parce que tu as besoin d'aide. Hein. Mais plus que ça, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles refuser. OK. Il faut absolument, parce que je pourrais me retrouver à terre. Je me connais, tu sais. Il faut absolument refuser l'héritage de ton fils parce que peut-être que les familles pourraient venir te poursuivre. Moi, c'est des affaires que j'aurais jamais pensées, mais il fallait que je le fasse puis que ma fille soit aussi protégée. On pense à ces choses-là parce que voulez-vous, on est dans ce système-là de justice et puis on sait qu'il y a beaucoup de poursuites. Mais ça m'a quand même aidé et puis j'ai remercié le Seigneur de quand même d'avoir pu faire ces choses-là. Sans suite, tout de suite après la période de choc, ça dure à peu près de 3 mois. 3 mois en principe, tu as fini l'état de choc. Mais voyez, les policiers sont venus me chercher à mon bureau et puis ils m'ont traîné en criminel. Criminel, hein, c'est pas quelque chose d'intéressant à vivre. Hein. Tu es là, tu te fais questionner pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et puis tu peux pas répondre aux questions parce que ta mémoire, ta concentration, tu l'as pas. Fait que c'était exaspérant, cette période-là. Et puis, ils pensent pas à tes besoins, si tu as faim, si tu as besoin d'aller à la salle de bain. Non, ils pensent à rien de ça. Puis si tu sors, là, tu es toujours accompagné par quelqu'un. Je vous dis, je me sentais comme la criminelle. Mon fils est mort, mais il m'a laissé à moi l'odieux de toutes les conséquences de ses gestes. Là, je voulais rentrer chez moi, me reposer, pleurer ma peine, incapable. Tout ce qui est à caractère sensationnaliste, les journalistes sont là, des meutes de journalistes qui étaient devant ma maison. Je n'ai pas pu rentrer dans ma maison avant au moins 3 mois. Alors, il fallait que je me cache, que je me cache. Et puis, tu as l'impression que c'est écrit sur ton front quand tu t'en vas, « Je suis la mère d'un criminel » ou « Je suis la mère de Marc Lépine ». C'est le feeling que tu as à l'intérieur de toi. Mais vous savez, c'est pas vrai ça. Toutes nos perceptions sont fausses, parfois. Alors, j'ai pu continuer à travailler parce qu'il fallait que je paye mon loyer. Donc, je suis allée travailler 3 mois après. Et puis, là, je n'ai pas parlé des choses émotionnelles. J'avais dit que mes compagnes infirmières... Leur réaction, celle qui me connaissait, parce que ça faisait quand même 35 ans que j'étais infirmière, elle me protégeait des journalistes. Elles ont fait comme un mur de protection autour de moi. Puis moi, ce qui me fascinait dans la parole, quand Jésus, c'était pas son heure n'était pas arrivée, il passait dans la foule, là, tiens, demande-moi pas comment, là, puis personne l'arrêtait, personne le touchait. Mais moi, j'avais demandé ça au Seigneur. Tu vas me faire passer dans la foule, là, puis personne ne va venir près de moi. Mais je n'ai jamais eu un journaliste qui est venu directement à moi. J'ai eu cette bénédiction-là. Travailler. Mais par contre, tous ceux que je ne connaissais pas, j'étais incapable de dire « Je m'appelle Monique Lépine ». Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Il fallait que je me protège. Alors, je disais « Je m'appelle Monique, je m'appelle Madame Lépine ». J'étais incapable d'entendre les mots Marc, les prénoms Marc, Polytechnique, tous ces termes-là, j'avais de la misère. J'étais incapable de m'asseoir avec les femmes puis de les entendre parler de leurs enfants, parce que les femmes, ça parle de leurs enfants. Hein? Alors ça, là, pour moi, là, c'était toutes des choses. Puis j'étais incapable de m'en aller à l'église puis de me faire dire comment ça va. Comment ça va? C'est sûr que ça n'allait pas. Alors moi, j'ai appris à me défendre en disant « ça va pas, il faut quand même dire la vérité, mais je n'ai pas le goût d'en parler. » Alors ça, il faut faire attention. Hein, quand quelqu'un est souffrant, quand quelqu'un vit des drames, quand quelqu'un vit des deuils, c'est pas le moment d'aller chercher de l'information. La consolation, c'est simplement des bras qui prennent la personne dans ses bras. C'est ça, la consolation. Tu n'as même pas besoin de parler. C'est de sentir qu'il y a quelqu'un de vivant à côté de toi qui est là pour toi. Donc, des fois, on est trop prompt à vouloir donner des conseils, hein? Et malheureusement, ce n'est pas de cela que les gens souffrants ont besoin. Et s'ils veulent des conseils, ils vont le demander à des personnes probablement en qui ils ont confiance. Donc, il faut être attentif à ces petites choses-là. Par contre, beaucoup de personnes me donnaient des petites cartes avec des versets ou ils m'envoyaient des mots d'encouragement. Ça, c'était aidant, parce que ça, tu regardes ça quand tu es prêt à le regarder, et là, tu vois que des gens ont de la compassion pour toi. Beaucoup de gens ont de la compassion. J'ai reçu des lettres de plusieurs personnes, des gens que je ne connaissais pas, des églises entières qui signaient de leur nom. J'en avais, à ce moment-là, recueilli au moins 4 albums pleins de lettres d'encouragement. Mais il y a l'autre aussi, l'inverse, des jugements. Puis les jugements, c'est effrayant. Mais tu juges en vertu de quoi? En vertu de ta perception. Parce que toi, dans ta famille, tu as appris à percevoir les choses de telle et telle façon. Dans ta culture, tu as appris à percevoir les choses de telle et telle façon. Mais vous savez, la culture de Christ transcende toutes les cultures. Et c'est heureux. Parce que Jésus, lui, ne regarde pas le comportement, il regarde le cœur. On a beaucoup chanté ce matin sur le cœur, j'étais contente. Quand tu as fini une période de choc, tu entres dans une période qu'on appelle de déni ou de négation. Cette période-là, elle est particulière parce que tu ne veux pas croire que ça t'est arrivé. C'est comme ça. Tu penses que ce n'est pas vrai. Moi, je me rappelle, je n'ai pas vu mon fils mort. Je n'étais pas capable d'aller à la morgue. Et des fois, je me promenais sur la rue puis je voyais quelqu'un qui avait son profil. Puis là, je marchais derrière lui parce que je pensais que c'était lui. Puis j'arrivais, puis non, c'était pas lui. Ça, c'est assez particulier. La façon que je me suis aperçue qu'il s'agissait vraiment de mon fils, c'est parce que lui avait l'habitude de m'apporter son lavage. Il laissait ça sur ma laveuse, puis ça voulait dire, ben fais mon lavage. Puis moi, je faisais le lavage, et puis il venait le chercher. Parce que mes enfants n'habitaient plus chez moi, mais ils avaient quand même la clé pour entrer chez moi. Alors, quand je n'ai pas eu ces sacs de lavage, c'est ça qui m'a fait dire, oui, c'était vraiment ton fils. C'est particulier. Et là, tu peux rester toute ta vie dans une période de déni. Moi, quand je regarde présentement toutes les commémorations qu'on fait, et j'étais vraiment surprise dimanche dernier quand un journaliste me demande « Qu'est-ce que tu penses de la plaque qu'ils veulent mettre avec l'inscription « Marc Lépine a dit qu'il haïssait les féministes ». J'étais même pas au courant parce que je regarde presque pas les nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Puis j'achète plus les journaux depuis le 6 décembre 89, donc... Des fois, je vais regarder sur la tablette, ouais, la tablette là, ou le téléphone, là, mais tu sais, juste les grands titres. Fait que je n'étais pas au courant de ça. Ça m'avait échappé. Alors là, je me disais à moi-même, ça, c'est, pour moi, c'est vivre dans la négation, voyez-vous? Parce que si une pierre tombale, ça ne va pas t'aider dans ta vie. ça ne va pas changer tellement le monde non plus. Puis là, je leur disais, mais non, je n'étais pas au courant, mais moi, je préfère faire des actions pour aider les jeunes qui souffrent, des actions concrètes à la mesure de mes capacités, plutôt que de mettre une pierre tombale. Mais il y a des gens qui veulent rappeler le souvenir constamment. Nous, les chrétiens, quand on lit qu'il faut oublier ce qui est derrière et continuer, hein, on sait très bien que ce n'est pas le passé qui va être important. C'est bon pour l'histoire, oui, c'est vrai. Mais il faut plutôt regarder en avant. On ne peut rien faire pour le passé. C'est fait. On ne peut pas le réparer, le passé. L'avenir, on ne le connaît pas encore. Sauf si on sait qu'on s'en va au ciel. Mais ça, il faut faire des décisions dans nos vies pour ça. Il faut accepter Jésus dans nos cœurs. Il faut vivre en conformité avec la parole. Mais si tu n'as pas cette assurance-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Parce que l'avenir, on ne le connaît pas. On ne sait pas quand on va mourir, mais on sait qu'on va mourir un jour. Donc, le temps présent, c'est ça qui est important. Les gens autour de moi, voilà ceux qui sont importants. Les gens que je côtoie régulièrement. Et vous savez, quelqu'un qui souffre, ça paraît dans son visage. Ça paraît. On peut regarder quelqu'un, puis on sait s'il est heureux ou s'il est malheureux. On peut écouter son langage. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, on sait si la personne, c'est quoi qu'elle a dans son cœur. Et à partir, si vous êtes attentif à écouter, vous allez pouvoir déceler des choses et pouvoir les aider. Voilà la grande question dans le deuil et dans n'importe quelle souffrance, c'est les émotions. Les émotions, il faut faire un ménage dans ça. Pareil comme on fait notre grand ménage dans la maison, de temps en temps, ben, je pense qu'il faut faire un grand ménage dans nos émotions. La plupart des gens ne connaissent pas les mécanismes intérieurs qui les animent. Devant un obstacle, un problème, un conflit, ils perdent le contrôle et la colère et la culpabilité ou la peur les envahit et les submerge sans qu'ils ne comprennent trop pourquoi. Quand je me suis posé la question, parce que la question pourquoi revient constamment dans ces moments-là, mais le pourquoi, on n'a pas toujours des réponses. Le pourquoi, c'est l'être humain qui veut absolument trouver un coupable, trouver une raison pour laquelle c'est arrivé ces choses-là. Mais personne n'a trouvé la raison pour laquelle mon fils a fait ça. On a des hypothèses, je vais en énumérer quelques-unes tantôt, mais on ne sait pas pourquoi. Par contre, je vais y aller dans mes hypothèses. La première, je me demandais, moi, est-ce que mon fils aurait eu une maladie psychiatrique? Vous savez, aujourd'hui, n'importe quel malheur qui arrive, on essaie toujours de mettre ça sur la faute de la psychiatrie. Hein? Mais il faut faire attention parce qu'on peut vouloir se déresponsabiliser en faisant ça. Mais moi, je me suis posé la question, il aurait pu, par exemple, être psychotique, ou avoir un débalancement chimique dans le cerveau. Possible, ça. 25 ans, ça arrive souvent aux jeunes hommes. Et j'en ai vu beaucoup dans les prisons. Et le lendemain, ils ne se rappellent même pas de ce qui s'est passé la veille. Alors ça pourrait être un élément de réponse. Mais, vous savez, il est mort avec ses secrets. Il n'a jamais été diagnostiqué par un psychiatre. Donc, il faut mettre ça de côté. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est les pensées que tu as. Comme je parlais tantôt des perceptions. Arrive n'importe quel événement, tout de suite, tu as ta petite idée de ce qui se passe. Puis il y en a beaucoup qui vont même donner des solutions tout de suite. Mais ça, c'est souvent une perception. La perception, c'est ton jugement. C'est subjectif. C'est pas la vérité. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que si c'est ce que je crois moi, ça ne veut pas dire que si l'autre à côté va croire la même chose ou va agir de la même façon face à la même situation. Par exemple, mettons une femme qui accouche. Moi, j'ai travaillé dans une salle d'accouchement. Bon, quand arrive une Italienne, c'est sûr que tu vas entendre crier, tu sais. L'Italienne, a crié quand elle accouche. Bon, tu arrives une Allemande, ben ça, c'est, ça fait des petits bébés sans qu'on l'entende, comprenez-vous? Alors, ça, ça en est des perceptions. Si je vois arriver une femme puis je dis « elle est italienne », on va avoir de la misère. C'est des perceptions, mais la perception, c'est pas nécessairement la vérité. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu, uniquement dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut confronter toutes nos perceptions à la lumière de la parole de Dieu. Moi, quand j'ai fait mon ménage d'émotions, ça m'a pris du temps, là. Ça m'a pris 17 ans, comme on a dit tantôt. J'ai voulu savoir, premièrement, c'est quoi cette émotion-là? D'où provient-elle? Et comment je pourrais arriver à la gérer ou à la contrôler? Donc, quand tu arrives à savoir comment changer ce modèle-là, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous transforme. On peut faire des efforts de volonté, essayer, regarder ceux qui essayent d'arrêter de fumer. Des fois, ils essayent par leur propre force, mais à un moment donné, ils reprennent une cigarette. En tout cas, ça m'est arrivé à moi déjà. Là, je ne fume plus, là, mais dans le temps. Et puis, ça prend la grâce de Dieu. Les émotions que j'ai eues à lutter, premièrement, la culpabilité. La culpabilité, je vais vous donner la vraie définition. Attendez, il ne faut pas que je parle dans le vide. La culpabilité provient du fait que nous percevons, vous voyez la perception, nos actions, notre état, comme divergent de ce qui est bien normal, correct ou moral. La culpabilité fait souvent référence au verbe « faire ». Paul disait « je fais les choses que je ne veux pas et je ne fais pas les choses que je veux ». Si tu ne fais pas les choses que tu les fais, ça peut relever de la culpabilité. Mais il faut faire une distinction entre la culpabilité, qui est vraie. Par exemple, je roule à 150 dans une zone de 50, la police m'arrête, me donne mon ticket, je suis coupable. Du sentiment de culpabilité. Là, le sentiment de culpabilité, ça fait appel à toutes sortes de règles qu'on nous a imposées dans nos vies. C'est sûr qu'il y a des règles au niveau civil, il y a des lois, il faut respecter ça. Tout citoyen se doit de respecter. Mais il y en a d'autres, des fois, que c'est des codes qui viennent d'ailleurs, un code social. Vous avez ici des règles dans l'Église. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Dans les familles, on a des règles. On se met des règles pour fonctionner. Celles-là, parfois, peuvent changer. Des fois, je donne un exemple banal. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça aller jouer. Puis ma mère, elle me disait, « As-tu fait ton lit? As-tu fait ton lit? » Il fallait toujours faire son lit avant de s'en aller jouer. Puis des fois, je ne le faisais pas. Fait qu'elle me ramenait. Mais ça, là, quand je suis été adulte, là, mon lit, des fois, je faisais exprès pour ne pas le faire. Puis j'entendais encore ma mère qui me disait, « Fais ton lit. » Fait que des fois, ça, ce n'est pas des règles qui sont nécessairement essentielles. Mais il y a des femmes qui ont des règles pour la propreté de leur maison. Puis il y en a que c'est fatigant, titi, tu sais, parce que tu ne peux pas rien toucher dans la maison, il faut que ça reste comme ça. Fait que ça en est des règles, tu sais, mais il faut s'adapter à ça. Je n'ai pas à me sentir coupable si je ne fais pas mon lit le matin. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut réévaluer quand on a des... du ménage à faire. Est-ce que ça, c'est vraiment essentiel pour ma vie intérieure ou est-ce que c'est juste des règles pour l'apparence, par exemple, tu sais? Fait qu'on a chacun nos règles qu'on va examiner à la lumière de la parole. Quand vous regardez dans la parole de Dieu la culpabilité, que dit Jésus une fois qu'on l'a accepté? Romains 8:1. Aucune condamnation pour celui qui croit. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ce verset-là. Parce qu'on a tendance à revenir, puis à se trouver pécheur, puis à penser que Dieu ne nous a pas pardonné. Vous savez, quand on souffre, il y a des attributs de Dieu qu'on met en doute. Son amour. On pense que Dieu ne nous aime plus parce qu'on a eu des épreuves. Sa fidélité. Il y a toutes sortes de choses, des fois, qu'on pense, parce qu'on souffre, que Dieu nous a mis de côté, qu'il ne nous aime plus, qu'il s'intéresse plus à l'autre qu'à moi. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça. Hein? Ça, c'est le jeu de l'ennemi qui veut nous garder dans la défaite. Moi, il y a un verset qui m'a aidé du début à la fin dans mon deuil, et c'est 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation, mais je vais ajouter le mot épreuve, parce que le mot épreuve, à mon sens, ne donne pas la même connotation, mais pourtant, dans le grec, c'est la même signification. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Des gens, des fois, nous disent « Comment tu as fait pour supporter ça? » C'est uniquement par la grâce de Dieu que tu peux supporter ça. Tu ne peux pas le faire par tes propres forces. C'est seulement Dieu qui vient te donner à chaque jour. Parce qu'il dit « À chaque jour suffit sa peine. » C'est aujourd'hui qui est important. Et c'est chaque matin qui renouvelle nos forces pour qu'on puisse accomplir notre journée. Mais il faut connaître sa parole. Donc, le verbe, dès que vous sentirez, dès qu'on dit « il faut que je fasse ci » ou « j'ai fait ceci » ou « j'ai pas fait », le verbe « faire » est souvent associé à la culpabilité. Ça va? La honte, voilà une autre émotion. La honte, elle, c'est une émotion profondément pénétrante qui signifie à la personne, et ce de façon persistante et continue, qu'elle est fondamentalement mauvaise, inadéquate, indigne comme être humain. La honte fait référence à toi, ton identité propre, qui tu es. Et quand arrivent des drames dans nos vies, les gens sont très prompts à penser que t'es une pas bonne. T'es une pas bonne. T'es pas une bonne mère. T'es pas ci, t'es pas ça. Alors que si on lit la pensée de Dieu dans le psaume, par exemple 139, Dieu dit qu'on est des personnes merveilleuses. Donc, il y a une contradiction entre les deux. Encore là, les gens vont te regarder avec ton comportement, alors que Dieu, lui, regarde le cœur. Imaginez-vous si la femme adultère, là, Marie-Madeleine, mettons, qui arrive là, puis tout le monde veut la tuer à coup de pierre, là, dans le temps, puis on sait que le monsieur, lui, n'était pas là. Hein? Le monsieur n'a pas fait ça tout seul, là. Alors, Jésus, il a pas dit un mot, hein? Il n'a pas reproché même son comportement. Sauf qu'il est venu toucher son cœur par son amour. Puis à la fin, il dit « Va, ne pêche plus. » C'est beau. Moi, quand je regarde ça, ça m'émeut. Parce que finalement, Dieu, il n'est pas celui qui nous disait qu'on avait dans notre enfance, là, qui qui regardait quasiment toutes nos fautes puis qui nous donnait des punitions. C'est comme ça qu'on nous l'a représenté, Dieu. Donc, il faut reviser notre conception de Dieu. Et comment je vais la reviser? Toujours en lisant sa parole. C'est là qu'il va me donner la version de l'esprit, puis comment il me voit. Alors, la honte, elle vient souvent d'un milieu familial dysfonctionnel. Elle vient du rejet, de l'abus sexuel, de l'abus même spirituel. On en a eu beaucoup dans le Québec, des abus spirituels. Dernièrement, lors du lancement la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui se disait avocat. Je n'ai aucune preuve qu'il est avocat. Mais en tout cas, il est venu me voir avant le lancement. Et à l'âge de 12 ans, mon fils avait ce qu'on appelle un grand frère. Il y avait une association. Comme je n'avais pas d'image paternelle dans la maison, j'ai dit, ben, ça serait bon qu'il ait un grand frère. Alors, c'est quelqu'un qui le sortait, puis qui était bon pour lui. Mais voilà que ce monsieur-là vient de me dire qu'il était l'avocat de ce grand frère-là. Et le grand frère en question, à un moment donné, quand mon fils avait 14 ans, les policiers étaient venus chez moi pour me dire que le grand frère était en prison parce qu'il avait molesté des jeunes garçons. Alors, j'avais demandé à mon fils, est-ce que vraiment tu as été touché par cet homme-là? Mais pensez-vous qu'un petit garçon qui est secret, qui ne parle jamais de ce qu'il ressent, va dire à sa mère, oui, j'ai été molesté? En tout cas, ce n'était pas le cas. Il m'a dit non. Mais j'ai su par ce monsieur-là que, oui, mon fils avait été molesté. Donc, abus sexuel, quand tu as 12 ans, laisse des séquelles. Laisse beaucoup de séquelles. Si tu ne parles pas de ces choses-là avec une personne compétente pour essayer d'avoir un processus de guérison, à tout le moins, ou de partager, parce que quand on l'exprime, c'est déjà moins pénible. Et vous savez, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup dans notre société. Alors, à ce moment-là, c'est que tu vas traîner ça dans ta vie, puis ça va souvent t'empêcher d'avancer. Il faut vider ces questions-là. Puis je pense que vous avez un pasteur ici qui est au courant de comment on peut faire pour vider toutes ces émotions-là. La formation cœur à cœur est un moyen qu'on a utilisé. Puis ils ont des bons outils pour nous aider à faire le ménage de nos émotions comme ça. Alors, si c'est votre cas, je vous invite fortement à vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Mais sachez que Jésus est venu pour guérir les cœurs blessés et contrits. Et Jésus est toujours très doux envers les gens qui souffrent. Il n'était pas si doux avec ceux qui étaient pharisiens et qui se croyaient très justes alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais pour les personnes qui souffrent, Jésus a toujours une bonne réponse. Il va toujours préparer quelqu'un autour de toi pour t'aider à passer par ces périodes difficiles. La colère... C'est un fort sentiment d'irritation, d'agitation qui peut se produire lorsqu'un besoin ou une attente n'est pas comblé. Le tableau de votre pasteur, M. Lavergne, sur la haine, les marches de la haine, c'est exactement ça. Puis vous savez, ça commence toujours par l'intérieur, hein? Je suis déçue, je suis frustrée, soit d'une parole, soit d'un regard, soit d'un geste de quelqu'un. Et voilà que ça commence à tourner déjà. Et là, je deviens amère. L'amertume, là, c'est une racine et c'est un poison. Quand les pharisiens demandaient à Jésus, par exemple, « pourquoi que tes disciples, eux autres, ils ne se lavent pas les mains? Là? Bon, ils voulaient qu'ils fassent les règles, le rituel religieux pour manger. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Je trouve ça, moi, assez intéressant. Il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur de l'homme dont viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ça, on retrouve ça dans Matthieu ou dans Marc. Donc, j'ai commencé à regarder cette parole de mon fils qui avait été mentionnée. Je hais les féministes. Et je me disais, voilà un mot, la haine. Donc, tout de suite, je pouvais quand même identifier que mon fils avait beaucoup d'amertume dans son cœur. Mais il y a deux façons de l'exprimer, sa colère. Tu peux la voir d'une façon physique. Tu donnes un coup à quelqu'un qui te donne un coup, mettons. On voit ça souvent dans le hockey des Canadiens et puis de toutes les autres. Moi, je déteste le hockey, hein. Mais je sais que c'est le sport national, là. Mais pour moi, je ne vois que de la violence là-dedans. Ils se donnent des coups, puis des coups, puis des coups. En tout cas, pas grave. Mais il y a une autre façon. Vous savez, les femmes ont tendance des fois à bouder. Hein? Bouder. T'en es de la colère, ça, hein? On boude. On dit rien.
Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas en colère, tu sais.
Ouais, tu boudes. Tu refoules ta colère. Ceux qui ne parlent pas là, vont refouler leur colère. Et puis, ça, c'est dangereux. C'est comme un volcan là, qui fait éruption, là, tu sais, à un moment donné. Mon fils refoulait sa colère. Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait. C'est grave quand tu penses que tu as été abusé sexuellement puis que tu traînes ça toute ta vie. Ça m'était arrivé à moi aussi. Quand j'avais 9 ans, il y avait un monsieur qui avait essayé de me violer. Il n'a pas réussi complètement, mais en tout cas, il a essayé pareil. Puis ça, là, j'ai jamais été capable de dire ça à mes parents. Vous savez, ça faisait partie de la dynamique familiale dysfonctionnelle. C'est pas supposé être comme ça. On devrait être capable de parler de ce que l'on ressent. Mais il y a souvent une autre façon de procéder dans la société, le paraître. On ne veut pas que les gens sachent. Dans mon temps, ils disaient on lave notre linge sale en famille, mais dans le fond, on ne règle rien. Hein? Alors, c'est pas la façon. Il faut être capable de trouver des personnes compétentes qui vont nous aider dans ce cheminement-là. Et puis, c'est important de le faire, parce que si on ne le fait pas, on ne réglera jamais notre problème. Il y a un pasteur, moi, que je connaissais, qui disait, « Si tu trembles dans le bouillon de poulet toute ta vie, ben, tu vas goûter le poulet. » Parce que il faut vraiment faire des changements dans nos vies si on veut changer de direction. C'est un peu ça, la repentance. Hein? Le Seigneur nous prend tel qu'on est, mais après, il faut se tourner de côté pour aller dans une autre direction. Parce que les pensées du monde et la pensée de Dieu, c'est deux mondes différents. Alors, la colère, si tu la nourris, ben, tu vas sortir de la colère. OK? C'est pour ça que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le pardon. Même Jésus en croix dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La prière du Notre Père nous dit aussi, « Pardonne tes offenses pour être pardonné. » Donc le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse, comme disent certains. C'est de reconnaître que je vais être libéré de ma colère, si j'en parle à quelqu'un, si je demande pardon, c'est difficile de venir à quelqu'un que tu as blessé et de lui demander pardon. C'est difficile, puis il peut te retourner de bord. Mais c'est pas grave si tu retournes devant toi, tu as fait ce que tu avais à faire. C'est comme ça qu'on se libère. Moi, des fois, il y a des gens qui me tombent ses nerfs, je vous le dis, il y en a. Hein? Puis là, des fois, il y en a qui viennent me demander de l'aide, puis ils me tombent ses nerfs. C'est encore pire. Je suis obligée de demander au Seigneur de me donner de l'amour, de la compassion, et de considérer la personne. Moi, je me dis toujours, si elle tombait à côté de moi, là, est-ce que j'aurais tendance à aller la soigner? J'irais la soigner. Fait que pour moi, je me dis, ben, c'est de l'amour. Tu sais? Parce que des fois, on pense que c'est pas de l'amour, mais c'est de l'amour. Mais Jésus dit d'aimer nos ennemis. Mais est-ce qu'on peut le faire par nos propres forces? Je pense pas. Il faut absolument qu'il nous donne sa compassion pour qu'on puisse la transférer à quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur fait ça, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la douceur. Moi, je ne suis pas une personne douce de nature, mais je demande toujours au Seigneur, donne-moi de la douceur quand je parle. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de ce fruit-là pour parler aux gens. Mais le Seigneur le fait toujours. Alors, la colère, si tu la nourris, forcément, tu vas en arriver à des clameurs, tu vas en arriver à des paroles qui ne sont pas toujours gentilles. Et là, comme dit la parole, ça va nous amener à haïr et ça peut nous amener au meurtre. Puis écoutez le discours présentement. Une féministe, on me demande ça, la semaine dernière, on m'a demandé, es-tu féministe? Oh, grosse question, hein? Ou qu'est-ce que mon fils pensait que c'était une féministe, tu sais? Alors, j'ai lu là-dessus, puis j'ai quand même remarqué certaines choses. C'est vrai que si pour nous, le féminisme, c'est d'améliorer la condition des femmes, je suis féministe. Mais pas pour n'importe quelle amélioration. Par exemple, si quelqu'un est dans la pauvreté, et puis que je peux faire quelque chose pour l'aider, être active dans ça, je vais le faire. Il y a toutes sortes de domaines. Au fil des années, on a vu que les femmes ont eu le droit de vote. Parce que vous savez qu'au début du 20e siècle, nous, les femmes, on n'était pas considérées comme des êtres humains. Persona non grata. C'est grave, ça. Hein? C'était une société patriarcale. Donc, il y avait juste les hommes qui avaient de la valeur. Les femmes, même quand ils se mariaient, ils prenaient le nom de leur mari. Ils n'étaient même pas leur nom. C'était le nom Madame, ma mère, par exemple, Madame Edmond Lépine. Les femmes ont débattu pour qu'on ait notre nom, on garde notre nom, notre identité de naissance. Ça, on a ça au Québec. Il y a des choses comme ça, les garderies. C'est des pressions sociales pour aider les femmes qui travaillent à avoir moins de soucis. C'est des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans le féminisme. Mais tu as des groupes aussi qui sont autres. Des groupes qu'on appelle radicaux. Là, hein? Et là, je regardais ça, toutes leurs revendications, puis je me disais, ça, c'est tout à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, abolir le mariage. Le lesbianisme. Puis il y a des mouvements assez forts, hein? Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? L'avortement, par exemple. Alors, quand tu regardes tout ça, ces choses-là, quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu, en tant que chrétienne, on ne devrait pas accepter ça, ces choses-là. Alors, c'est là où il faut quand même faire un travail de réflexion pour situer notre position dans ces choses-là. Je hais les féministes. Souvent, je me suis demandé, parce que mon fils a quand même été élevé juste par moi et par... avec deux femmes, ma fille et moi. Alors, je me disais, est-ce que sa colère était dirigée contre moi? Parce que j'ai été obligée d'aller travailler, parce que je ne lui ai pas donné assez de temps, d'attachement. Parce que vous savez, des relations, ça se développe. Hein? Moi, j'étais obligée de me séparer des enfants quand ils étaient en bas âge parce que je devais travailler dans les salles d'opération. Tu ne peux pas amener d'enfants. Donc, j'ai été obligée de les faire garder par des étrangers. Donc, ça m'a enlevé beaucoup, beaucoup de sentiments d'attachement. Mais ça a une importance. Ça a une importance dans le fonctionnement et l'évolution de nos enfants. Donc, c'est ça. La peur, pour finir, ben la peur, quand tu as peur, tu n'oses plus bouger. Tu n'oses même plus prendre de décision. Je connais beaucoup de femmes, de mères, d'enfants qui ont fait des gestes criminels et qui n'étaient plus capables de retourner travailler, n'étaient plus capables d'avoir une certaine valeur, de faire partie de la société. Elles se sont carrément retirées et elles étaient paralysées. Leur vie est finie à cause de ça. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre, tes enfants sont morts. Mais toi, tu as encore le souffle de vie. Et comment me l'a-t-il fait comprendre? C'est un jour, parce que j'allais toujours à l'église, c'était mon point de repère. J'étais assise et j'étais en train de mourir de tristesse, de chagrin. Mon âme sortait de mon corps. À un moment donné, au niveau du cou, je n'arrivais plus à tenir ma tête droite. Je me suis appuyée sur une femme à mes côtés. Et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. À ce moment-là, alors que j'étais au fond, et que je ne pouvais plus rien par moi-même, Jésus est venu. Et ce qu'il m'a demandé, qui fait battre ton cœur? Notre cœur bat. On se lève le matin, notre cœur bat. Ben, j'ai dit, c'est toi, Seigneur. Et j'avais deux chemins devant moi, la mort, la vie. Et Jésus me demandait, quel chemin vas-tu prendre? Il aurait accepter que je meure si je lui avais demandé de mourir. Mais à ce moment-là, il m'a donné une énergie nouvelle et j'ai dit, je vais vivre pour aider des gens qui, comme moi, souffrent en silence. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2001, que toute ma vie a pris une autre tournure. Et que finalement, quand est arrivée une autre tuerie en 2006 au collège Dawson, à l'intérieur de moi, je savais, parce que j'avais prié pour un sens à ma vie, et je savais que je serais à la télévision quand le journaliste m'a téléphoné le matin. Il m'a pris de l'ombre pour me propulser à la lumière de la télévision. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long travail de préparation si tu veux dire des choses qui ont du sens. Mais c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne voudrais pas que personne passe par les mêmes étapes que moi parce que c'était douloureux, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je sais que le Seigneur m'utilise grandement pour aider à se situer par rapport à la souffrance. Mark Twain disait qu'il y a deux jours les plus importants dans ta vie, ta naissance et la journée où tu sais ce que tu es venu faire sur cette terre. Parce qu'on a tous, on est tous des êtres différents, on a tous des dons différents qu'on doit mettre au service des autres. Je vois que l'heure avance. J'aimerais ça qu'on puisse peut-être fermer les yeux pendant les quelques minutes qui restent. C'est sûr qu'en une heure, je ne peux pas tout dire. C'est pour ça qu'il y a un livre derrière. Mais présentement, c'est vous devant Dieu, chacun de vous devant Dieu. Moi, je me rappelle dans mes grandes angoisses, je levais souvent la main et je disais, « Seigneur, viens à mon secours. » Il y a peut-être des gens ici qui, leurs douleurs sont remontées à la surface. Quelle que soit la douleur, le suicide d'un enfant, les relations toxiques autour, les difficultés de communication dans le couple, la maladie, il y a tellement de douleurs sur cette terre. Mais si vous avez ressenti ou si vous sentez que l'Esprit vous parle présentement pour justement faire confiance complètement à Jésus, s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez lever la main comme moi, je criais, viens à mon secours, Seigneur. Et faites-le maintenant, tous les visages sont fermés, il fait noir, personne ne vous voit, sauf moi, là, et le Seigneur. Demandez-lui, dites-lui, c'est quoi votre souffrance? Jésus a toujours les bras grands ouverts pour nous entendre, pour venir nous consoler, pour changer même certaines circonstances, mais il veut qu'on lui parle. Regardez votre douleur et dites-lui ce que vous voulez faire. Comme moi, j'ai choisi la vie au lieu de la mort. Faites un choix dans votre cœur.
Seigneur Jésus, nous sommes ce matin devant toi. C'est toi qui connais le cœur de chacun qui est ici. Tu connais ceux qui luttent avec la honte, ceux qui luttent avec la culpabilité, ceux qui sont aux prises avec la colère, ou encore avec la peur. Seigneur Jésus, toi qui es le Maître, le Créateur, toi qui es venu sur cette terre et qui a démontré tellement de compassion envers ceux qui souffraient, vois-tu ceux et celles qui ce matin te font un cri du cœur? Jésus, peux-tu me rencontrer? Peux-tu venir dans ma vie? Peux-tu venir dans mes circonstances? Peux-tu venir dans ma douleur? Je te demande, Jésus, viens, viens vers moi. Pardonne mes péchés. Prends ma vie. Prends tout ce que je ressens à l'intérieur, tout ce avec quoi je lutte. Et je te demande, Jésus, donne-moi ta paix. Emmène-moi, Seigneur, à te connaître. Amène-moi, Seigneur, à vivre maintenant en ayant une relation avec toi. C'est le désir de mon cœur, c'est ce à quoi je te demande ce matin. Je t'ouvre mon cœur et je te tends la main. Jésus, s'il te plaît, saisis la mienne et conduis-moi. En ton nom, Jésus, je te l'ai demandé et je te remercie de m'avoir écouté. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Lépine. C'est là qu'on voit que Dieu, il n'y a pas de circonstances trop pénibles. Et votre vie n'est pas terminée, même si vous pensez que ce que vous passez à travers présentement, ça n'a pas de bon sens. Jésus, lui, il veut prendre le mal et il veut faire avec quelque chose qui va vous jeter par terre. Venez à lui, faites-lui confiance. Merci encore, Monique, merci. Que Dieu t'accompagne encore jour après jour. Et continuez à prier pour elle. Elle a d'autres rendez-vous, d'autres rencontres, d'autres conférences qu'elle va donner. Alors, elle va certainement apprécier si vous la gardez dans votre cœur et priez pour elle. Amen. Amen. Amen.